l'émission Écho de la solidarité internationale, présentée par la Maison des Tiers-Mondes et de la solidarité internationale.
Eh bien, aujourd'hui, je suis entourée d'une nombreuse délégation de la FPS, l'association
France-Palestine Solidarité de l'Hérault.
Donc, j'ai autour de la table Robert Kissous, qui est le président de cette association, et puis Alain Manteghetti, Kaina Zahar et Gisèle Allègre, qui ont fait tous les trois partie d'une délégation, une mission qui est partie en Palestine du 27 février jusqu'au 12 mars. Et vous étiez nombreux.
Oui, nous étions 12 membres de la FPS en délégation, j'insiste bien là-dessus, parce que nous avons voulu que ce soit une délégation qui porte la parole. Aussi bien auprès de la mairie de Bethléem, du gouvernorat de Bethléem, un peu comme nous étions porteurs de ce jumelage entre Montpellier et Bethléem. Donc pour nous c'est important. Mais bien entendu, ces rencontres avec le maire de Bethléem, Madame Vera Baboun, avec le gouverneur du gouvernorat de Bethléem, ont été des rencontres très importantes dans ce cadre-là. Ils nous ont tous les deux attiré l'attention sur la gravité de la situation à Bethléem, non seulement la ville, mais le gouvernorat. 82% du territoire du gouvernorat est entièrement pris en main par Israël pour le développement de la colonisation et la confiscation de terres pour le développement des colonies. Bethléem, et dernièrement Netanyahou l'a dit, l'objectif des Israéliens, des autorités israéliennes, c'est de couper définitivement le lien entre Bethléem et Jérusalem. C'est très important parce que ce sont des liens millénaires. Donc voilà ce premier aspect qui concerne notre jumelage et de voir comment nous y travaillons. À la suite de quoi ? À la suite de toutes ces rencontres, nous avons d'ailleurs écrit Monsieur le ministre Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, pour lui dire ce que nous avons vu. Donc cette délégation a eu beaucoup d'autres rencontres et j'en reste là parce que mes amis vont parler des différents aspects.
Oui, je crois que 9 d'entre vous n'étiez jamais allés en Palestine.
Effectivement, il y avait 9 qui n'étaient jamais allés et c'était vraiment à la fois des découvertes de terrain et des rencontres politiques que nous voulions les plus fructueuses possibles.
Alors, c'est le cas d'Alain, de Kaina, de Gisèle. Vous étiez pour la première fois en Palestine.
Oui, tout à fait.
Oui, c'était la première fois qu'on se rendait en Palestine.
Alors, bien sûr, tous les trois, vous avez eu des parcours divers au cours de ce voyage. Et qu'est-ce qui vous a le plus marqué, Alain ?
Moi, pour résumer rapidement la situation, c'est que la Palestine est une zone de non-droit. On peut l'illustrer par l'implantation des colonies sur les territoires palestiniens. Dans la vallée du Jourdain, un tiers du territoire a été confisqué. La construction d'un mur de séparation, trois fois plus important tant en longueur qu'en hauteur que le mur de Berlin, et qui empiète à peu près 10% du territoire palestinien. La confiscation des ressources naturelles, en particulier les ressources aquatiques, dans une région où le stress hydrique est particulièrement important, et puis l'annexion de Jérusalem-Est et l'encerclement par les colonies israéliennes. Toutes ces actions sont en désaccord avec le droit international. La plupart des résolutions votées par l'ONU ne sont pas appliquées. La politique israélienne d'expansion territoriale est protégée par les États-Unis et leur droit de veto au Conseil de sécurité. Ce qu'on peut dire, c'est que la situation est particulièrement délicate.
Alors, vous êtes resté 15 jours à Bethléem, mais vous avez pas mal circulé. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ces contacts ?
Moi, ce qui m'a marqué le plus, et bien, on en parlera plus, c'est la résilience du peuple palestinien. Des gens qui sont vraiment admirables parce qu'ils vivent dans des conditions de tracasserie administrative, ils ne peuvent pas sortir du territoire, enfin bon, je veux dire, rien ne leur est facile, et pourtant ils vivent, je veux dire, ils ont une joie de vivre, enfin voilà, je crois que Gisèle en parlera un peu plus par la suite.
Alors, vous avez participé aussi à des manifestations ?
Oui, mais ça peut-être...
Abiline, tous les vendredis. La semaine d'avant, il y avait eu énormément de monde à Abiline pour fêter le 10e anniversaire du début de ces manifestations. Abiline, c'est un petit village qui proteste tous les vendredis contre le mur de séparation, contre la confiscation des terres par les autorités israéliennes. Et ils ont déjà eu par le passé quelques victoires puisqu'on leur a restitué 30% de leurs terres volées. Et voilà, donc nous, comme à l'habitude de le faire l'AFPS à chaque délégation, on est allé un vendredi participer à la manifestation pacifiste à Abiline.
Alors vous êtes arrivé à la fin de la manifestation, je crois.
Oui, tout à fait, on est arrivé à la fin de la manifestation. C'est dû notamment aux problèmes de circulation là-bas en Cisjordanie. Et donc, on est arrivé, on va dire, à un moment où ça commençait à chauffer, puisque les soldats israéliens commençaient à charger les jeunes, les adultes, les dizaines de personnes qui manifestaient, et qui manifestent, je le rappelle, tous les vendredis pour réclamer leurs droits. Et donc, on est arrivé en retard, et les choses se sont enchaînées très 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 rapidement, sans qu'on ait vraiment le temps de comprendre ce qui se passait. Et 4 d'entre nous, donc 4 sur 12, ont été arrêtés par les soldats israéliens.
Et vous avez été retenu combien de temps ?
On a passé, on va dire, une bonne journée en interrogatoire avec les autorités militaires israéliennes. Donc on s'est fait arrêter aux environs de 13 heures. On nous a gardés pour nous questionner au poste de police des frontières jusqu'à peu près minuit. Et à minuit, on a décidé de notre envoi en prison pour 24 heures, le temps de prendre une décision nous concernant.
Alors, vous avez été quand même libéré.
Oui, sinon on ne serait pas là.
Voilà.
Oui, oui, on a été libéré. Ça a été très stressant. Donc, heureusement, quand même, je dirais qu'on était 4 et qu'on se soutenait moralement les uns les autres. Mais on ne savait pas du tout ce qui allait nous arriver. On ne comprenait même pas pourquoi on avait été arrêté, parce que vraiment, c'était une manifestation pacifiste et nous, on était là plutôt en tant qu'observateurs. Donc, on n'a pas très bien compris, tout s'est enchaîné. On a juste compris que quand vous êtes en territoire palestinien, les choses sont complètement aléatoires. Vous pouvez vous retrouver à vous faire arrêter sans avoir rien commis de grave. Et les choses s'enchaînent et on vous accuse de choses que vous n'avez pas commises. On avait 3 chefs d'inculpation. Donc, pour eux, on avait participé à des émeutes. On était en zone militaire, alors qu'on n'avait absolument pas vu de zone militaire. Donc, en fait, tout est fait pour casser les manifestations pacifiques et le soutien international aux gens de Abiline.
Donc vous avez eu cette expérience un peu dure,
oui,
je dirais.
Dure, voilà, dure d'une journée d'arrestation et d'investigation assez poussée et un peu violente de la part des officiers militaires. Pas violente physiquement, hein, violente
verbalement,
je tiens à le signaler. On a été bien traités. Et puis une journée en prison, en attendant de savoir ce qu'ils allaient décider, ce qu'ils allaient faire de nous le lendemain soir.
Voilà, et alors vous vous êtes intéressé aussi au sort des prisonniers, justement.
Oui, tout à fait. On avait rencontré, je crois que c'était avant notre arrestation, on avait rencontré Fadwa Barghouti, qui est l'épouse de Marwan Barghouti, un député palestinien emprisonné depuis 2002, suite à la deuxième intifada. Et à titre personnel, j'avais été très bouleversée par cette dame et par son témoignage. Et finalement, c'était... On a compris l'arbitraire des choses, on a compris la différence de puissance en fait entre d'un côté un peuple et des soutiens qui manifestent pacifiquement et une armée toute puissante, surarmée, qui décide de vous arrêter, de vous emprisonner en Israël, en Palestine. Il y a la question de la rétention administrative. Là, ce n'est pas du tout le cas de M. Barghouti. On l'a arrêté parce qu'il représentait une menace pour le pouvoir israélien, dans le sens qu'il est un symbole fort de l'unité palestinienne. Et c'est un député, donc depuis 2002, il a été arrêté. Je crois qu'il a 4 ou 5 peines de perpétuité qui s'additionnent, plus 40 ans. Donc je vous laisse imaginer un peu le temps qui va passer dans les geôles israéliennes. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir de ce monsieur et de la rencontre avec son épouse, Fadwa Barghouti, c'est que le monde entier doit se mobiliser pour Marwan Barghouti, mais au-delà pour les prisonniers palestiniens. Parce qu'on a tendance à considérer, nous, à l'AFPS et dans des autres mouvements de solidarité, que c'est le nouveau Nelson Mandela. Donc, il y a une campagne qui a été lancée depuis l'Afrique du Sud par Desmond Tutu, qui a été relayée depuis 2014 en France, une campagne internationale que Madame Fadwa Barghouti porte pour la libération de son mari, mais bien au-delà de tous les prisonniers palestiniens.
Combien sont-ils à peu près ?
Au jour d'aujourd'hui, ils étaient 4500 avant le massacre à Gaza de l'été dernier. Et depuis, l'armée israélienne et les autorités israéliennes arrêtent des gens à tour de bras. Donc ils sont entre 6500 et 7000. On n'arrive pas à savoir exactement, ça bouge tout le temps. La semaine dernière, il y a quelques jours, ils ont arrêté le ministre palestinien Jamil Barghouti, qui est un ami à nous de l'AFPS, et il a été nommé ministre après la mort du précédent ministre sur le mur et les colonies. Vous voyez, tout le temps, il y a ces répressions.
Et alors, il y a aussi des enfants, des jeunes qui sont en prison.
Oui, tout à fait, et de plus en plus, nous, on a rencontré une ONG qui est Defense for Children. Malheureusement, je n'ai pas eu la chance d'assister à cette rencontre parce qu'à la suite de notre arrestation, les quatre qui avaient été arrêtés avaient une restriction de circulation sur le territoire. Donc, à titre personnel, je n'ai pas participé à cette rencontre avec cette ONG de défense des enfants prisonniers. Mais c'est un phénomène qui prend de l'ampleur en violation de toutes les conventions de droit international et au mépris du respect du souci qu'on doit à un enfant. Je veux dire, toutes les sociétés doivent prendre...
La Convention des droits de l'enfant là, n'est pas respectée.
Et quand on en arrive à être dans une société où on arrête les enfants, où on les harcèle, où on les fait peur, on les intimide, on leur masque les yeux pour faire pression, notamment sur les parents, je pense qu'on est quand même dans une société qui va mal et qui a à réfléchir sur le sens qu'elle accorde aux libertés individuelles.
Un jet de pierre peut conduire à 10 années d'emprisonnement. Oui. Un jet de pierre d'un enfant.
Un enfant.
Voilà, tout à fait. Donc, très, très, très prochainement, on en reparlera à la fin. Il y a la journée internationale des prisonniers.
Le 17 avril, je crois.
17 avril.
Le 17 avril, tout à fait. Donc, la campagne pour la libération de Marwan Barghouti et de tous les prisonniers politiques, il faut la relayer très largement au niveau international. Et peut-être qu'on arrivera, on l'espère, au même succès qu'on a abouti pour Nelson Mandela.
Et oui, souhaitons-le. Alors, je me tourne vers Robert. Quelle est la musique que vous avez apportée ?
Eh bien, en premier, Camila Joubran. Camila Joubran, une chanteuse palestinienne. Mais je tiens à préciser tout de suite qu'elle n'est pas parente du trio Joubran.
Écoutons.
أمشي منذ أيام أعد بصوت منخفض أعد الأشجار القبعات الشوارع بصوت منخفض أمشي منذ أيام أعد بصوت منخفض أعد الأشجار القبعات الشوارع بصوت منخفض منخفض منذ عدة أشجار وقبعات وشوارع منذ عدة أعوام أعوام بصوت منخفض منخفض أمشي 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 أمشي.
Alors je reprends. Je rappelle que je suis avec la FPS et la délégation qui s'est rendue en Palestine en février-mars. Et vous étiez nombreux, vous êtes aujourd'hui quatre autour de la table pour en témoigner. Bien sûr, vous allez rencontrer aussi tout le public héraultais, montpelliérain, pour porter ce témoignage. Mais je me tourne vers Gisèle qui n'a pas encore parlé. Mmh. Alors, quel était, selon vous, le point important de cette délégation ?
Ce qui m'a le plus touché, c'est justement l'énergie, le dynamisme qu'on a pu rencontrer auprès de tous les acteurs avec qui on a eu des entretiens, et aussi également l'observation de la vie quotidienne en Palestine témoigne justement de ce dynamisme, courage face à l'adversité. Et face à la stratégie évidente d'étouffement de l'économie palestinienne que met en place le pouvoir israélien. Et on sait très bien justement que le grignotage des territoires par la politique dont on vient de parler réduit les ressources en terre, en eau, et également porte atteinte évidemment à l'agriculture palestinienne qui est un secteur majeur. Ce qu'on peut constater toutefois, et c'est un approvisionnement des marchés particulièrement, important, des produits de très haute qualité, ce qui laisse augurer à ce que pourrait être une Palestine libérée et avec une économie indépendante par rapport à la domination israélienne. Ce qu'on a remarqué aussi, et qui est un facteur positif pour un développement possible de la Palestine dans des conditions de libération, c'est la qualité de la population active, et en particulier le niveau d'éducation de la jeunesse, avec une forte proportion de filles qui étudient à l'université. On a un taux d'alphabétisation qui est proche de 95%. Donc la population palestinienne est une population qui employée avec un plus fort taux, pourrait justement contribuer à dynamiser très rapidement l'économie palestinienne. Ça, c'était le deuxième point. Également, l'activité touristique. Les Palestiniens sont extrêmement accueillants. Ils ont un très grand sens de l'organisation. Et justement, je voulais inviter nos auditeurs à aller en Palestine, soutenir l'économie palestinienne, la société palestinienne, en s'adonnant à un autre tourisme, pas celui seulement du pèlerinage à partir d'Israël, mais à partir de Bethléem, de la Cisjordanie, choisir le tourisme alternatif. Et à ce sujet, j'aimerais donner les coordonnées d'une ONG palestinienne de tourisme alternatif, www.atg-.ps. C'est une ONG qui se situe près de Bethléem, à Beit Sahour, et qui organise des circuits touristiques vraiment alternatifs, où on peut être logé chez l'habitant palestinien, où on rencontre des associations, ce que nous avons fait nous, mais qui peut être également fait de manière plus individuelle ou familiale. Donc ça, soutenons le tourisme palestinien, ça c'est important, parce que c'est une source de revenus essentielle pour l'économie palestinienne, qui est agressée tous les jours hein, par les checkpoints, les refus d'importation, de passage de produits, etc., qui sont vraiment un sabotage systématique par le gouvernement israélien, de la Cisjordanie en particulier, de Gaza évidemment. Également, d'autres initiatives dans d'autres domaines, par exemple les projets, nous avons rencontré un assistant vétérinaire qui développe un projet d'élevage donc avec les Bédouins en vallée du Jourdain, avec comme objectif de produire un fromage AOC de qualité et qui pourrait justement conquérir les marchés nationaux et plus loin encore. Également, une autre forme de résistance, on en a rencontré beaucoup. Les villages qui, malgré l'oppression des colonies voisines, continuent à survivre, construisent une école. Ça a été le cas à Nabi Zakaria, où nous avons rencontré des villageois qui n'avaient même pas pu finir le minaret de leur mosquée parce qu'on leur interdit les constructions supérieures à 4-5 mètres. Voilà, donc partout une résistance plus ou moins spontanée, mais certainement également un développement artisanal important, de haute qualité. Nous avons rencontré l'Union des femmes arabes qui produit de la broderie. Nous savons aussi qu'il y a un très bel artisanat. Nous avons vu des produits, des émaux, du verre. Donc on a également une technologie artisanale de haut niveau.
Des poteries aussi.
Et des poteries. Autre point important, c'est la présence dans le domaine médical, sanitaire, de personnalités qui m'ont pour moi vraiment très marqué. Je veux parler du docteur Edouard Chéraven et du docteur Mustapha Barghouti. Le premier dirige un centre de réhabilitation pour personnes handicapées. Et Dieu sait qu'après les bombardements de Gaza, ils sont nombreux. Et ce qui est intéressant dans ce projet, c'est un projet de développement durable au sens où on ne soigne pas seulement les gens, mais on essaie de les réinsérer dans la vie sociale et professionnelle avec des salles de gymnastique, des ateliers de production. Et on a vraiment face à nous une personne qui a donné sa vie justement à l'amélioration de sanitaire de ses concitoyens et qui aussi refuse les termes d'aide, refuse, et c'est ça que j'ai retrouvé aussi dans toutes les discussions avec les Palestiniens, c'est leur fierté. C'est-à-dire, si Israël n'exerçait pas une domination aussi systématique, aussi barbare, la Palestine n'aurait pas besoin d'aide internationale. C'est ça que j'ai pu constater, parce qu'il y a des ressources naturelles, humaines, exceptionnelles dans ce pays. La culture également, la culture est d'un haut niveau. Elle s'exporte bien, la musique, la danse, enfin tout ça. Donc voilà, vive la Palestine.
Merci pour ce témoignage très intéressant sur l'économie, parce qu'on n'en parle pas assez, je pense. Alors je sais que votre association, ici, fait connaître par exemple l'huile palestinienne.
Oui.
Et les broderies également.
Voilà, tout à fait.
Voilà, il faut continuer, bien sûr. C'est un moyen d'aider toute cette population très courageuse et qui produit malgré tous les obstacles. Alors, nous allons écouter peut-être à nouveau une musique.
Oui, alors c'est un morceau qui s'appelle Checkpoint, d'un groupe qui s'appelle Gaza Calling, je crois, de mémoire. C'est pour ne pas oublier Gaza, parce que c'est le groupe Checkpoint, et on appelle Gaza, et Gaza appelle plutôt, et personne ne répond. Et donc c'est ça le sens de ce morceau, et c'est pourquoi il le fallait aujourd'hui, parce que nous n'avons pas pu aller à Gaza, nous sommes allés qu'en Cisjordanie, mais on ne veut pas qu'on oublie que Gaza souffre d'un blocus de destruction épouvantable, de morts, de blessés et tout, et que depuis, rien n'a changé, depuis ces bombardements.
Alors, nous avons tout à l'heure parlé de la journée des prisonniers. Vous préparez une manifestation à ce moment-là?
Oui, Kaina a parlé de la rencontre avec Fadwa Barghouti. C'est une question très importante, si vous voulez. Marwan Barghouti, c'est le symbole, comme ça a été indiqué, et c'est tous les prisonniers en même temps qu'on exige leur libération. Il ne peut pas y avoir de processus de paix véritable sans libération des prisonniers. C'est impossible. Ça s'est fait comme ça en Afrique du Sud. L'accord qu'il y a eu à la sortie de l'apartheid s'est fait après la libération des prisonniers. Ils ont refusé de transiger là-dessus. Ils en avaient les moyens et les forces, mais ça fait bien très... Donc, nous avons tous les ans une mobilisation que nous faisons d'ailleurs avec le collectif Palestine 34 ces dernières années. Et cette année, la plateforme des ONG françaises pour la Palestine a invité le directeur Ayed Abou Ektesh de Defense for Children International, branche Palestine, que nous avons rencontré à Ramallah et qui nous a parlé de ce problème de la détention, de l'arrestation d'enfants et de toutes les conditions dans lesquelles ils sont détenus. Donc Ayed Abou Ektesh vient à Montpellier le 13 avril, lundi 13 avril, et nous appelons tout le monde donc à participer. C'est à l'espace Martin Luther King, 27 boulevard Louis Blanc à Montpellier, à 18h30. Ce sera donc la rencontre avec Ayed Abou Ektesh. Et je vous garantis qu'elle est à la fois importante et passionnante. À cette occasion, nous allons projeter le film qui s'appelle le film fait par la plateforme des ONG La Casse-Prison. Et peut-être, je pense, j'espère que nous pourrons aussi projeter le petit court-métrage, le petite vidéo de 10 minutes que Ayed Abou Ektesh nous a donné sur place, en français, spécifiquement sur la détention des enfants. Très intéressant et important. Voilà donc Rendez-vous 13 avril.
Merci. Alors, bien sûr, vous devez avoir aussi des rendez-vous pour tenir au courant de votre mission.
Oui, nous répondrons à toutes les sollicitations qui nous sont faites d'exposer ce que nous avons vu dans toutes les villes de l'Hérault. Nous sommes prêts à aller partout, mais d'ores et déjà, nous pouvons dire qu'il y aura un compte-rendu, bien entendu, à Montpellier, mais aussi à Béziers ce soir, 30 mars. Hein, rendez-vous donc au Biterrois là-bas.
Où ça ?
Kaina connaît peut-être mieux que moi le rendez-vous, mais le 30 mars à Béziers.
Dans les locaux de la CIMADE.
C'est dans les locaux de la CIMADE, exact, merci. Et je crois que c'est à
19h.
19h, voilà.
Dans le cadre du printemps à Béziers.
Voilà, dans le cadre du printemps à Béziers. Donc ça, c'est à Béziers ce soir. Nous aurons donc à l'Odève et nous ferons aussi à Sète. Donc ces quatre villes seront, il y aura des comptes rendus. Mais encore une fois, nous sommes prêts à en faire à Lunel, à Pézenas, partout où cela nous est demandé.
Donnez vos coordonnées, où
alors,
peut-on vous joindre?
L'adresse mail où on peut nous joindre, c'est afpsgl34@gmail.com. Donc je répète, afpsgl34@gmail.com. Pour l'anecdote,
merci.
On n'a pas pu prendre AFPS34 tout court dans le Gmail, c'était déjà pris.
Alors, je continue avec le calendrier. Eh bien, dès demain soir, sur la place de la Comédie, de 18 à 19 heures, aura lieu le cercle de silence mensuel pour protester contre la politique sur l'immigration en France. Et puis, samedi 11 avril, j'annonce que à la CIMADE, de 9h à 17h, a lieu à une formation sur le thème « Faire face à l'agression », qui est animée par Hervé Haute, formateur consultant en approche et transformation constructive des conflits. La participation est à partir de 30 euros. À midi, repas tiré du sac, c'est organisé par le MAN et vous pouvez vous inscrire au 04 67 92 69 12. Il reste encore quelques places. Le mercredi 1er avril, à l'Amphiage, près du Théâtre La Vignette, à l'Université Paul-Valéry à Montpellier, dans le cadre de la semaine anti-apartheid israélien, à 19h, présentation de la vidéo « Mission de solidarité » de l'Université Paul-Valéry en Palestine, qui a eu lieu en 2003 sous la conduite de la présidente Madame Veil. Et à 20h, une conférence de Farik Essak, militant anti-apartheid, professeur à l'université de Johannesburg, président de BDS Afrique du Sud. C'est organisé par BDS 34 avec le soutien du SNES-SUP. Mardi 7 avril, à la salle Guillaume de Dogaré à 18h30, place Mirouz à Montpellier. La laïcité pour quoi faire, avec Alain Bondel, responsable national de la Ligue des droits de l'homme et de travail laïcité de la Ligue, et Pierre Daréville, historien et journaliste, membre de l'exécutif national du PCF et secrétaire départemental de la Fédération PCF 13, auteur de « La laïcité n'est pas ce que vous croyez ». À bientôt, chers auditeurs. Merci à vous tous.
Merci.
Merci.